physique par le sport et les loisirs actifs.
Merci Firmin.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Dans de nombreux pays, la peste fait partie des maladies dont on ne parle quasiment plus. Pourtant, elle continue de tuer. Entre 2010 et 2015, selon l'OMS, l'on a enregistré 3248 cas de peste dans le monde, dont 584 mortels. Rien que cette année, une quarantaine de personnes ont perdu la vie à Madagascar. La peste est une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme. Elle est due à des bactéries que l'on trouve habituellement chez les petits mammifères et les puces qui les parasitent. L'être humain peut être infecté par les piqûres de puces infectées, par contact non protégé avec des liquides corporels infectieux ou par inhalation des gouttelettes respiratoires d'un patient. Pour en savoir davantage, nous avons contacté le docteur Abdoulaye Cissé, docteur vétérinaire et responsable du complexe Les Mamelles à Dakar au Sénégal. Il commence par nous présenter les différentes formes de peste qui existent.
Alors, c'est la raison pour laquelle nous parlons toujours de peste au pluriel, parce que c'est une maladie qui existe sous différentes formes. Et nous pouvons déjà, d'ores et déjà, retenir que le dénominateur commun réside sur le caractère hautement contagieux de cette maladie et surtout l'aspect rapidement mortel. À propos donc des caractéristiques de différenciation, nous pouvons retenir plusieurs critères à propos des caractéristiques historiques ou bien empiriques. Donc depuis la nuit des temps, les pestes ont été classées en deux types, à savoir la peste blanche et la peste noire. La peste blanche a toujours eu égard à la tuberculose. Et la peste noire, donc, c'est en l'occurrence la maladie dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et elles ont toujours provoqué de graves épidémies qui ont décimé des millions de populations et surtout ont décimé plus que toutes les guerres qui ont été réunies. Et après, nous pouvons passer à une deuxième classification qui fait appel à des caractéristiques beaucoup plus modernes, donc qui sont basées sur la biologie. Et donc, c'est-à-dire les espèces qui sont atteintes et surtout l'agent causal ou l'agent responsable. Et parmi ces deux classifications modernes, nous pouvons citer la peste humaine, donc qui est en l'occurrence la maladie dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. C'est une peste, donc, qu'il faut savoir, qui est zoonotique, c'est-à-dire que quand on parle de zoonose, nous pouvons évoquer des maladies qui se transmettent de l'homme à l'animal et inversement, donc c'est-à-dire vice-versa. C'est une peste qui est d'origine bactérienne, donc qui est causée par une bactérie qui s'appelle Yersinia pestis. Donc l'origine latine a toujours trait au mal, donc c'est-à-dire la peste, ça signifie le mal. Et donc Yersinia, c'est à propos du biologiste qui l'a découvert. Donc c'est transmis par une puce qui vit chez le rat domestique ou bien le rat sauvage, donc c'est les rats noirs ou les rats gris, et qui vit aussi sur les autres lagomorphes, et c'est-à-dire les lapins, les rongeurs domestiques ou sauvages, et qui a un cycle de multiplication très spécifique. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce cycle de multiplication que nous pouvons distinguer plusieurs signes distinctifs de la maladie qui sont les signes pathognomoniques. À côté de celles-là, nous pouvons distinguer aussi les autres pestes qui sont les pestes animales, et je tiens à souligner que les pestes animales sont spécifiques à l'animal. Et parmi elles, nous avons au moins 3 ou 4 que l'on peut citer brièvement. Nous pouvons citer la peste bovine, donc qui est une maladie qui a sévi pendant plusieurs dizaines d'années et qui est maintenant éradiquée grâce à la vaccination. Et la peste des petits ruminants, donc quand je parle des petits ruminants, je fais allusion aux chèvres, aux moutons. Il y a aussi la peste porcine qui touche les porcs domestiques et surtout les porcs sauvages, donc qu'on appelle les suidés, notamment les sangliers. Et en dernier, les deux grandes pestes qui restent, c'est la peste équine qui a récemment décimé en 2007 un bon millier de chevaux au Sénégal. Et enfin, nous pouvons citer aussi les pestes qui touchent les volailles qu'on appelle la peste aviaire.
Oui, parlons justement de la peste humaine. Comment elle s'attrape? Comment s'attrape-t-elle?
Alors, donc, je reviens tantôt au cycle de multiplication dont on a parlé tout à l'heure. Ce cycle de multiplication, donc, il fait appel à des vecteurs et à des réservoirs. Quand on parle de réservoir, le réservoir, c'est souvent un animal chez lequel l'agent causal il vit et chez lequel il ne provoque soit pas de maladie apparente ou bien qui provoque une maladie faiblement apparente. Et donc ce vecteur, ce réservoir, il héberge l'agent causal qui est la bactérie Yersinia. Et cet agent causal, chez le réservoir qui est le rat domestique ou bien le rat sauvage, cet agent causal va être ingurgité par une puce sauvage. Donc je répète très bien, c'est une puce sauvage. Cette puce sauvage, elle est souvent hématophage et mâle comme femelle, se nourrissent de sang. Donc chez le sang du réservoir qui est infecté, la puce sauvage va se multiplier et donc avoir un lien avec les puces domestiques, c'est-à-dire la puce domestique de l'homme. Donc c'est le lien étroit. Donc le réservoir, il héberge le germe qui s'appelle Yersinia et le vecteur, la puce sauvage, prend la bactérie à travers son repas sanguin et communique avec les puces domestiques de l'homme. Et c'est à partir de la puce domestique de l'homme qui, elle peut être hématophage. Et en prenant son repas sanguin, la puce fait une sorte de vomissement sur le lieu d'inoculation. Et c'est à partir de ce vomissement, donc cette piqûre locale, qui peut être soit au niveau des membres, parce que le plus souvent, c'est les puces qui nous atteignent dans les zones qui sont mal éclairées ou bien mal couvertes. Et c'est souvent ce type d'inoculation qui fait l'objet de la transmission.
Et quels sont les signes qui peuvent alerter une personne qu'elle a attrapé la peste?
Les signes qui peuvent alerter, c'est d'abord au site d'inoculation. Donc, on fait toujours référence au site. Le site d'inoculation, ce sera le lieu d'apparition d'un vésicule ou bien d'une pustule que l'on appelle le bubon. Et c'est d'ailleurs même l'un des noms de la peste qu'on appelle la forme bubonique. Donc, c'est le nom ancien, le nom historique. Et cette pustule ou bien ce vésicule en ce développement va donner l'apparition d'un bouton noir. Donc si vous regardez souvent les documentaires, en tout cas, il y a l'apparition d'un bouton noir.
Et les boutons noirs sur le visage ou sur tout le corps?
Sur le corps, c'est-à-dire sur le membre ou bien la main. Et en tout cas, il est à côté d'un ganglion. Souvent, c'est la cuisse. Le plus souvent, ça peut être la cuisse ou la main. En tout cas, c'est un bouton qui est apparemment visible ou bien donc caché par la personne qui est atteinte. Et à partir de cela, les autres signes vont se mettre en place en fonction de la propagation de la maladie. Donc après, nous allons assister à un développement d'adénite. Donc c'est un terme biologique qui signifie l'apparition ou bien l'hypertrophie, c'est-à-dire le gonflement des ganglions. N'oublions pas que les ganglions, c'est des sites de défense locale. Dès qu'un germe entre dans le corps, ce dernier donc va produire des agents de défense, notamment les macrophages qui malheureusement dans cette maladie vont être détruits par le germe. Et c'est la réaction du corps qui va provoquer le développement et l'agrandissement des ganglions qu'on appelle une adénite. Quand le germe se propage après avoir vaincu le système de défense locale, nous allons assister lors de sa dissémination à des signes encore plus spécifiques. Tantôt j'avais parlé de l'apparition de signes au niveau des organes généraux. Donc ça, c'est la propagation qu'on appelle une infection systémique, c'est-à-dire tout le corps est envahi. Et quand, d'abord, avant cela, il y aura l'apparition de signes pulmonaires. Donc ces signes pulmonaires peuvent aller de l'œdème pulmonaire, donc en stade terminal, en passant par de la toux, des crachats, et surtout des difficultés respiratoires, des amygdalites, des difficultés d'avaler. Donc toute la sphère buccale est atteinte et ça donne lieu à des symptômes respiratoires.
Et que faut-il faire lorsqu'on constate ces signes d'alerte?
Alors, toujours se baser sur le cycle de multiplication et la spécificité de cette maladie. Donc, la peste étant une maladie hautement contagieuse et une zoonose majeure, donc c'est une maladie très très grave. Donc, la première des choses, c'est qu'il doit y avoir une déclaration obligatoire au niveau des autorités locales et surtout une prise en charge précoce. C'est-à-dire la personne atteinte doit d'abord se faire consulter. Donc, soit par un médecin le plus proche, ou bien au niveau des autorités sanitaires les plus proches et disponibles. Une fois que cela est fait, cette personne va être prise en charge pour un diagnostic précoce de cette maladie. Parce que n'oublions pas que c'est à partir de ce diagnostic précoce que tout peut être fait d'une manière à prendre en charge la maladie et à pouvoir l'éradiquer sur l'échelle nationale et à la limite même des fois internationale. Et en plus de cela, il y a un traitement antibiotique. Ce germe, heureusement, il obéit et il est sensible à des antibiotiques qui sont à portée, donc qui ne sont pas du tout chers, donc qu'on appelle les amoxicillines, notamment la gentamicine, la streptomycine, beaucoup d'antibiotiques, les sulfamides, la canamycine, et toujours obéir au principe sacro-saint de l'antibiothérapie, c'est-à-dire frapper vite, frapper fort et pendant une longue période. Donc c'est le principe vite, fort et longtemps.
Alors, comment éviter la maladie? Y a-t-il moyen de l'éviter?
Bien sûr qu'il y a beaucoup de moyens de l'éviter. Mais voilà, donc ça dépendra aussi de beaucoup de critères qui forcément ne se retrouvent pas dans les pays sous-développés, notamment les pays pauvres. Donc déjà, la première mesure à faire est donc de rompre le cycle de multiplication du germe. C'est-à-dire, un, de faire une dératisation, donc lutter contre les réservoirs et les vecteurs, donc dératisation, les insectisations, pour pouvoir détruire le germe là où il habite de manière préférentielle. Maintenant, inévitablement, une personne atteinte doit éviter, ou bien on doit lui éviter son pouvoir de contamination. Donc, il faut rapidement isoler les malades dans des structures spécialisées pour éviter toute contamination de personnes qui ne sont pas atteintes. Et maintenant aussi, une autre mesure fait appel aux directives de l'OMS et surtout aux directives internationales, c'est-à-dire que toute maladie de ce genre doit faire l'objet d'une déclaration obligatoire pour qu'on puisse maîtriser et éradiquer les possibilités de contamination humaine. En ce sens, il faudrait aussi éduquer les populations et éviter les contacts avec les vecteurs et les réservoirs. Donc, ne pas trop s'approcher des rongeurs sauvages, ne pas trop manipuler les rats, éviter les déjections de rats et surtout avoir une hygiène personnelle qui puisse permettre que aucun réservoir et aucun vecteur ne puisse transmettre la maladie à l'homme. Donc, c'est-à-dire faire de telle sorte que les populations aient un niveau de santé et un niveau sanitaire assez suffisant pour pouvoir éradiquer ces parasites externes. Parce que c'est comme un péril fécal, c'est surtout la pauvreté qui conditionne ou bien qui donne un terrain propice à l'épanouissement et à la fertilisation de ces terreaux-là. J'avais même oublié tantôt tout à l'heure de parler de la vaccination qui quand même demeure une méthode assez efficace. Mm-hmm. Mais malheureusement, ce vaccin a fait l'objet de plusieurs tentatives donc qui plus ou moins ont réussi. D'abord, à cause des effets secondaires, les vaccins n'ont pas pu bien agir. Et maintenant, il y a des vaccins qui sont en cours de recherche. Je laisserai le soin à mes collègues de médecine humaine donc, de bien s'étendre là-dessus.
Nous remercions le docteur Abdoulaye Cissé qui nous répondait depuis la Normandie, en France.
Quelqu'un l'a vécu ? Voici son témoignage.
Madagascar est avec la République démocratique du Congo et le Pérou l'une des zones d'endémie de la peste. À Madagascar, un vent de panique s'est emparé des populations depuis le déclenchement de l'épidémie de peste qui a tué une quarantaine de personnes cette année. Sur le terrain, le gouvernement et ses partenaires nationaux et internationaux tentent de maîtriser l'épidémie. Parmi ces partenaires figure l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons joint la représentante de cette organisation dans la Grande Île, le docteur Charlotte Fatindiaï, parle des opérations menées dans le cadre de cette lutte. Mais pour commencer, elle nous a expliqué pourquoi Madagascar reste une zone d'endémie.
Vous savez, ici à Madagascar, chaque année, la population, surtout au niveau rural, brûle les champs parce qu'ils mettent les terres en jachère, ce qui fait que les rats, particulièrement le rat noir, s'échappent des champs pour aller vers les habitations. Et c'est ainsi que les puces piquent les animaux et transmettent le bacille responsable de la peste. Et chaque année, on est dans un cycle saisonnier. En général, les cas de peste, et surtout les pestes en milieu rural, surviennent entre septembre jusqu'à avril. Et cette année, on a été particulièrement surpris par une précocité de cet événement saisonnier, puisque c'est à partir du mois d'août qu'on a observé les premiers cas.
Alors, on sait que, justement, une épidémie s'est déclarée et a déjà fait une quarantaine de morts depuis le début. Alors, que font concrètement les autorités sanitaires et ses partenaires en cas d'épidémie comme c'est le cas actuellement?
Cette année, c'est une épidémie particulière parce que, comme vous le savez, l'épidémie a atteint les grandes villes de Madagascar. Donc, nous avons les villes portuaires, mais également la capitale. Et c'est ainsi que des villes qui ont une forte densité humaine. Donc aujourd'hui, les autorités de ce pays sont entièrement mobilisées au plus haut niveau parce qu'on est en face d'une peste pulmonaire, c'est-à-dire une peste qui se transmet d'homme à homme, c'est une paroi respiratoire et qui pose donc un grand problème de propagation. Ce qui fait que ça, à tous les niveaux, on a été, nous sommes impliqués. L'Organisation mondiale de la santé et les partenaires tels que l'UNICEF, mais également les agences de l'USAID, sont entièrement sur le terrain depuis quelques semaines pour mettre en place les actions nécessaires à la lutte contre cette épidémie.
Alors, quelles actions concrètement?
Alors, vous savez, nous avons d'abord, il s'était s'agit d'écrire un plan opérationnel pour qu'on soit parfaitement coordonné, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs qui vont travailler dans la lutte contre cette épidémie. Mais la première action que nous mettons, c'est une action, bien entendu, de prise en charge des malades au niveau des structures hospitalières qui ont été renforcées, tant au niveau des ressources humaines qu'au niveau matériel. Mais également, on a mis en place un système de surveillance avec un système d'alerte précoce permettant de pouvoir détecter très tôt les personnes malades au niveau des zones affectées. Mais également, surtout, on fait ce qu'on appelle le contact tracing. On l'a vu dans la maladie d'Ebola. C'est-à-dire qu'il faut rechercher tous les contacts qui ont été autour du cas qui a été notifié. Et c'est ainsi que nous pensons pouvoir interrompre la chaîne de transmission. D'autres étapes sont importantes, c'est la mobilisation sociale, c'est la prise en charge communautaire, c'est bien expliquer aux populations les gestes appropriés à prendre pour pouvoir se protéger et pour pouvoir éviter d'attraper cette maladie.
Là, vous parlez des mesures prises pour la gestion de l'épidémie. Quelles sont les mesures à prendre ou déjà prises pour éviter durablement que ne survienne la maladie prochainement?
Effectivement, vous savez que dans ce pays, on a mis en place depuis quelques années un système de surveillance en temps réel, mais surtout qui a été placé dans les zones endémiques où on retrouve les cas de peste. C'est-à-dire, dès qu'il y a un cas de peste qui a été notifié, il faut immédiatement mettre en place les moyens de son traitement et également les moyens de la prévention autour des personnes en contact. Donc, ce système est un système d'alerte qui utilise des tablettes et qui permet donc aux responsables de la structure de santé de pouvoir envoyer l'information en temps réel et permettre ainsi une action, une réponse rapide. Donc, la surveillance est la clé. Nous pensons que dans nos pays, surtout nos pays de la région africaine, le maître mot en matière d'épidémie, c'est savoir surveiller. Et nous avons beaucoup appris de Ebola et nous continuerons donc à appliquer les leçons qui ont été apprises suite à cette maladie. Mais je voudrais rappeler une chose, c'est que la peste est une maladie qui se guérit. Elle se guérit à 100% à partir du moment où le patient a été diagnostiqué très tôt. Les antibiotiques sont là. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé a fait une donation de 1,2 million de doses d'antibiotiques pour permettre non seulement de traiter, mais également de prévenir au niveau des contacts. Et nous espérons ainsi pouvoir arriver à circonscrire très rapidement cette épidémie.
Alors, quelles sont les leçons que d'autres pays peuvent tirer de ce qui se passe actuellement à Dakar? Vous avez évoqué, par exemple, l'aspect agricole, l'aspect social et tout cela. Est-ce que d'autres pays qui observent cela de loin, qu'est-ce qu'ils peuvent tirer comme leçon pour éviter qu'une pareille épidémie ne se produise chez eux?
Alors, le premier fait, c'est que c'est vrai que c'est une maladie c'est une maladie ancienne. Mm-hmm. C'est une maladie qu'on avait oubliée. Mais du fait des changements climatiques et des changements de comportement, on peut avoir une émergence de ces maladies-là. Donc il est important que tous les pays soient à l'écoute de ce qui se passe à Madagascar et particulièrement dans ces zones, savoir qu'il faut maîtriser la surveillance parce qu'aujourd'hui, il y a des mouvements humains qui sont tellement importants qu'on ne peut plus contrôler. Aujourd'hui, avant, on ne s'attendait pas à avoir une cette épidémie au niveau des capitales. Mais le fait qu'il y ait autant de mouvements à travers des possibilités de transport qui sont de plus en plus importantes dans nos pays fait que de plus en plus les gens sont appelés à se déplacer et il faut savoir donc les surveiller pour mieux contrôler les épidémies.
Nous remercions le docteur Charlotte Fatindjai qui nous répondait depuis Antananarivo, la capitale de Madagascar.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Armand Nguenkap, a répondu à vos questions. Le docteur Nguenkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons, en France.
Ma question concerne l'hémorragie nasale. Je souffre de l'hémorragie nasale il y a de cela 4 ans déjà. Oui, je n'arrive pas à trouver un médicament contre cette maladie.
Ce que je peux expliquer à Christian, c'est qu'il n'y a pas de médicament en tant que tel pour soigner une hémorragie nasale, tant qu'on ne connaît pas la cause de cette hémorragie nasale. Ça fait 4 ans que cette hémorragie nasale persiste chez Christian. Il faut, dans ce contexte-là, que Christian puisse consulter un médecin pour faire un diagnostic précis de la cause de cette hémorragie nasale. Pourquoi ? Parce qu'une hémorragie nasale peut être bénigne du fait d'une cause locale, mais elle peut aussi être un peu plus grave s'il y a une maladie derrière. Dans les causes bénignes des hémorragies nasales, on va retrouver, par exemple, une fragilité de la muqueuse nasale locale, qui va du fait peut-être d'une infection comme un rhume, une rhinite, et parfois des traumatismes de cette muqueuse nasale parce qu'on a éternué parfois un peu très très fort ou tout simplement parce qu'on a une petite tache vasculaire locale qui va saigner lorsqu'on éternue très profondément ou lorsqu'on s'irrite un tout petit peu, on se traumatise un tout petit peu la muqueuse nasale en la frottant ou en la grattant un tout petit peu. Mais il y a aussi des causes générales qui peuvent survenir. Et c'est pour ça que, compte tenu du fait que Christian signale une hémorragie nasale qui dure depuis 4 ans, je souhaite vivement de consulter un médecin pour faire le diagnostic exact, pour rechercher la cause. Il peut consulter un médecin généraliste ou il peut consulter un ORL, qui est un spécialiste, qui va faire un examen de son nez pour rechercher la cause, mais qui va aussi faire un examen général, parce que parfois, les hémorragies nasales peuvent avoir une cause locale, comme par exemple une petite malformation locale qui est source de fragilité de la muqueuse nasale sur le plan local, mais les hémorragies nasales peuvent encore avoir une cause générale, par exemple une hypertension artérielle. Est-ce que Christian a une hypertension artérielle? Ça, il faudrait le vérifier, parce qu'une hypertension artérielle peut provoquer une hémorragie nasale, à savoir un épistaxis dans le langage médical. Il faudrait aussi que le Christian puisse consulter un médecin, que le médecin puisse savoir si il n'a pas une maladie du sang, à savoir une maladie de la coagulation du sang. Bon, voilà ce que je pouvais répondre à Christian concernant son hémorragie nasale. Il n'y a pas de traitement, il devrait consulter un médecin pour faire le point.
N'oubliez pas, si vous avez aussi des questions ou commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook, sur le site web de VOA Afrique, www.voafrique.com et sur nos télévisions partenaires.
C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition a été consacrée à la peste, une maladie qui a fait cette année une quarantaine de victimes à Madagascar. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Abdoulaye Cissé, docteur vétérinaire et directeur du complexe Les Mamelles à Dakar, au Sénégal. Il nous a parlé des modes de transmission et les moyens de prévention contre la maladie. Nous avons également écouté le témoignage du docteur Charlotte Fatih Ndiaye, représentante de l'OMS à Madagascar. Avec elle, nous avons abordé les opérations menées dans la grande île pour lutter contre l'épidémie. Nous leur disons tous merci.
Merci aussi à Firmin Koyaweda qui était là pour nous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Béro Matanda à Kinshasa et Erika Smouzi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Georges Léonard Sagno et de Aiden Utko qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec
Rosine Munezero
et Mohamedou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com et sur notre page Facebook VOA Afrique. We'll be right back.